Des poches sous les yeux, l'interview.
Bonjour Michel Goussu, on est ravis de t'accueillir sur les ondes de Radio Béton pour échanger sur ton premier roman, Le Poisson pourri par la tête, Burnout, un roman paru au Castor Astral.
Alors, qui est paru cette année en janvier. Là.
Première question, est-ce que tu peux nous faire le pitch de ton roman ? De quoi ça parle ?
Le piège. Sérieusement, ça parle d'un salarié du tertiaire dans une boîte de finance. Qui n'est pas le trader glamoureux auquel on peut penser, mais qui est un peu la petite main qui va faire des projets, brancher des tuyaux informatiques, des choses comme ça, et qui rentre là-dedans assez partant, assez motivé, et petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, d'une part se crame par la quantité de travail qu'il fait et se met en porte-à-faux par rapport aux valeurs qu'il ressent de l'entreprise sans réussir à se recaler. Jusqu'à ce qu'il arrive vraiment dans ce qu'on appelle un burn-out. Et la spécificité un peu du livre, c'est comment on s'enfonce dans cette situation-là et comment on finit par réussir à en sortir.
Et alors ce titre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc il est en deux parties. Tout d'abord, donc, une sorte de, je sais pas, de haïku, enfin, je sais pas, tu vas nous expliquer. Donc le poisson pourri par la tête et en dessous, entre crochets, burn-out. Alors, c'est venu d'où ce titre ?
Pour la petite histoire, au départ, ça s'appelait que « Le poisson pourri par la tête ». Ensuite, je l'ai envoyé à un éditeur qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah, c'est vachement bien, j'ai lu que les 50 premières pages, c'est vraiment bien, j'espère que vous n'avez pas signé ». Je m'étais fait jeter d'absolument partout. Et puis, il se passe un mois, deux mois, et puis je rappelle le gars, il me dit « Ah, le début, vachement bien, hein, le début ». Donc, il me demande de retravailler. Et puis, quand je l'ai renvoyé à l'éditeur. Moi, je savais pas, en fait, si le gars était sérieux, s'il se souvenait de qui j'étais. J'ai rebossé, en fait. Il m'a dit, ce que tu vas devoir modifier, il y en a pour un mois ou deux, quoi. Ça m'a pris un an et demi de plus. Et au bout d'un an et demi, quand je lui ai renvoyé, je me suis dit, en fait, le mec, c'est peut-être pas qui je suis, donc je vais remettre le poisson pourri par la tête. Sauf que, pour pas qu'il pense que c'est le même manuscrit, je vais préciser en dessous, burn-out. Pour bien séparer les deux versions du manuscrit qu'il va avoir, quoi. Et finalement, il l'a gardé.
D'accord. Et donc, ce livre, il vient d'où ? Quelle est sa genèse ?
En fait, c'est réellement un roman qui vient d'un récit. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans une entreprise de ce genre-là. J'ai fait un burn-out. Et sur la fin de mon expérience professionnelle, je commençais à noter dans le bas des marges ce qu'on note pas quand on travaille, c'est-à-dire le type qui se cure le nez ou celui qui est en train de maltraiter sa secrétaire. Et je prenais ces petites notes-là et puis petit à petit, la marge du bas dans laquelle il y avait les commentaires... dans le but d'écrire quelque chose, remontait la page dans laquelle il y avait du travail diminuait. Et j'ai écrit à partir de ces notes-là. Ça m'a pris un peu plus de 6 mois. Et je me suis rendu compte que voilà, j'étais le énième salarié géniard qui n'a pas su s'adapter et qui se plaint de tout. Et ça suffisait pas, ça servait à personne. Et du coup, j'ai vraiment voulu en faire un roman. Et à partir du moment où j'ai commencé à retravailler pour en faire un roman... Les gens qui ont su que je travaillais dessus ont commencé à me parler, quoi. À me dire, bon, tu fais un truc sur le burn-out. Ah bah, tu sais, j'ai un copain qui... je connais quelqu'un qui... Et puis, les anecdotes ont commencé à tomber et à me renforcer dans ce qu'il y avait à écrire, ce qui était important, ce qui n'était pas, etc. Et du coup, j'ai dû retravailler pour sortir de mon expérience personnelle qui n'était pas intéressante en soi, parce que plein de gens en font, pour réussir à en faire une histoire qui soit à la fois... avec les vrais ressorts d'un burn-out pour que ça puisse aider les gens qui puissent le lire et être dans cette situation-là, et à la fois un vrai ressort romanesque avec une progression, un point de rupture, enfin toutes les choses qu'on apprend en creative writing, comme disent les...
Donc en fait, c'est un peu entre autofiction, roman et documentaire, presque, également.
Ouais, il y a un peu de ça, avec notamment le fait que le narrateur n'ait pas de nom, et que les personnes de la sphère intime n'aient pas de nom, alors que les personnes de la sphère professionnelle ont tous soit un nom, soit un surnom. C'était justement une façon, en partant d'un truc personnel, de pas faire de l'autofiction au sens où ce qui est important, c'est pas la personne à qui c'est arrivé, c'est la façon dont ça se déroule, quoi. Tout en ayant quand même des héros, des personnages pour que ce soit agréable à lire, quoi.
C'est ton premier livre, ça se lit très bien, le style est vraiment d'une grande qualité, c'est fluide. Il y a des phrases très accrocheuses, avec vraiment des petites pépites ici et là qui encouragent le lecteur à poursuivre sa lecture. Or, c'est Voilà, c'est ton premier roman. Comment on arrive finalement à avoir une œuvre aussi ciselée pour une première?
D'abord, merci. Parce que c'est toujours,
je partage, hein, tu disais, beaucoup de gens partagent, je partage.
C'est agréable parce que c'est quelque chose dont on ne sait jamais quand on travaille là-dessus, si ça a un intérêt ou pas. On se dit, si ça se trouve, l'histoire tout court, ça peut suffire. L'autre truc, c'est qu'en fait, j'écris depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai dans un de mes cartons un livre que j'ai écrit à 8 ans sur les aventures de mon ours en peluche. Ensuite, j'ai des nouvelles de l'adolescence où t'es très triste et où tu penses que t'es le seul à être très triste, donc t'écris des choses très tristes. Et puis après, tu te rends compte que tous tes copains écrivent des trucs très tristes. Sauf qu'à un moment, les copains s'arrêtent. Et que moi, j'ai continué en n'arrivant jamais vraiment à l'assumer. Moi, j'ai un cerveau de littéraire, mais j'ai vraiment fait des études de scientifique. Mais par exemple, quand je suis quand j'ai bossé dans le monde de la banque assurance, en même temps, j'écrivais des spectacles pour une compagnie de théâtre. Et puis ensuite, j'ai fait de la critique littéraire. J'en fais encore, d'ailleurs, pour une radio que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Radio Béton. Très très bonne radio.
Faudrait nous en parler.
C'est une bonne équipe. Et du coup, il y a cette d'abord le fait de lire énormément, c'est hyper important pour le style. C'est-à-dire qu'il faut vraiment et de lire pour de la critique. Sérieusement, c'est ça qui fait qu'on comprend ce qu'on a envie de faire ou non, et on comprend comment les gars y arrivent. Il m'est arrivé en lisant, par exemple, Une femme fuyant l'annonce de David Grossman. Il m'est arrivé de relire 10 fois un passage pour comprendre. Comment ça marche, quoi. Comment, pourquoi moi, si je l'écris, c'est nul. Lui, s'il écrit la même chose avec le même nombre de mots, c'est bien, quoi. Et ça, la critique littéraire aide énormément.
Et qui sont tes modèles, justement? Notamment au niveau de l'ironie. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, au niveau de l'ironie et de l'humour qui est très présent, alors que le sujet est sombre.
Alors, ce qui est très marrant, c'est que je suis venu à la littérature par des choses très lourdes. Moi, j'étais un grand fan de Dostoïevski quand j'étais jeune, et c'est des choses dans lesquelles je ne me retrouve plus du tout. Et je suis venu à l'ironie dans des choses dans lesquelles je ne me retrouve plus non plus. C'est-à-dire que j'étais très sensible à l'ironie de Houellebecq quand j'avais 20-25 ans. Mais je n'apprécie pas, ou celle de Beck BD, j'apprécie pas le côté cynique qui va avec cette ironie-là. Et en fait, il y a une synthèse qui s'est faite chez moi entre la bienveillance que j'ai pu lire chez des gens comme David Grossman, par exemple, et le cynisme qu'on peut trouver chez un type comme Houellebecq. Et un auteur que je redécouvre maintenant et qui arrive à faire ça infiniment mieux que moi, mais je trouve plutôt dans des nouvelles ou dans du théâtre, c'est Tchekhov, qui est tout le temps en train de se moquer de ses personnages et jamais avec méchanceté. Et donc il y a ça. Alors il y a deux autres influences majeures. Il y a Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, qui manie la petite phrase comme ça, et où on sent qu'en fait ça a l'air de sortir comme ça. Et il y a le hip-hop. En fait, dans le rap, il y a énormément de culture de la vanne, et c'est un truc qui ne se ressent pas forcément. Enfin, il y a plein d'allusions qui sont planquées d'ailleurs pour les amateurs de hip-hop qui peuvent les retrouver à l'intérieur du bouquin. Mais enfin, c'est pas gênant si on les connaît pas. Mais il y a cette culture-là de la vanne, du. Les Américains font ce qu'on les appelle des dirty dozen, c'est-à-dire qu'ils se lancent 12 rimes, enfin 12 vers à la figure en se balançant des insultes, mais en fait, c'est assez. En fait, je connais aucun poème classique par cœur ou presque, alors que je connais des albums entiers de rap ou de rock français.
Merci pour cette mise en contexte et puis on voit d'où vient ce livre. Tu le disais tout à l'heure, on parle à la fois d'un personnage qui est victime d'un burn-out et donc finalement d'une introspection, d'une observation de soi-même, mais on parle aussi d'une observation de l'entreprise. Donc on a un regard externe, un regard interne. Puisque tu remplissais les marges de tes rapports, c'est d'abord finalement la description de l'absurdité de l'entreprise qui t'a d'abord mené vers ce roman.
Les notes en tant que telles avaient un côté survie, c'est-à-dire que quand tu es dans un système dont tu comprends que tu ne feras jamais partie, une façon de se protéger, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche en prenant ces notes-là. J'avais la volonté de ne pas faire un brûlot, pas faire un pamphlet genre j'ai été la victime d'un système pourri et pervers, mais parce qu'en fait au fur et à mesure que j'écrivais, c'est-à-dire dans toute la première partie avant que mon éditeur me dise c'est bien mais il va falloir retravailler, il y avait encore un aspect centré sur moi, c'est-à-dire thérapeutique, quoi. Et bien en fait au fur et à mesure qu'on le réécrit, qu'on le retravaille, on se rend compte des mécanismes qu'il y a et on se rend compte qu'il y a quelques personnes qui sont vraiment des pervers et qui ont la volonté d'écraser, pour en revenir au titre, le poisson pourri par la tête, c'est vraiment, si vous avez à la tête d'une organisation quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va toujours recruter des gens moins bons que lui. parce qu'il n'a pas envie, soit qu'on lui prenne sa place, soit d'être mal jugé, etc. Donc il va toujours prendre des gens moins bons que lui. Et donc du coup, toute l'organisation récupère cette ambiance où personne n'a confiance en personne et qui fait que des personnes normales vont se retrouver dans des postes pour lesquels elles sont incompétentes, puisqu'elles ont été choisies pour leur incompétence, pour ne pas mettre en danger le chef d'au-dessus, et vont faire énormément de mal à des gens parce qu'ils ne savent pas faire. J'avais quand même un objectif avec ce bouquin-là, c'est qu'il puisse servir aux gens qui étaient restés dans la boîte en question ou aux gens qui m'avaient envoyé des anecdotes, etc. Et pour ça, il fallait qu'il y ait un côté intime très fort, parce que ce que vous renvoie des RH quand vous êtes en burn-out, c'est les problèmes que vous aviez en rentrant dans l'entreprise. C'est-à-dire, si vous vous plantez, c'est parce que vous aviez des problèmes avant d'entrer dans l'entreprise. Et c'est vrai. Sauf qu'en fait, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des galères dans sa vie. Sauf que ceux qui se font pas harceler ou ceux qui se cassent pas la figure, ben en fait, on va jamais venir leur parler de leurs problèmes. Ça regarde personne, c'est dans la sphère intime. En revanche, ceux qui se cassent la figure parce qu'ils ont été sur un projet qui a été mal managé ou quoi, là, on va leur dire, bah oui, mais attends, t'as divorcé il y a 2 ans, c'est pour ça que tu t'es mal remis, donc c'est ta faute. Donc il y avait ce côté-là intime qui devait être là, et il y avait la nécessité aussi de donner des clés. Alors c'est pas un livre de management, c'est pas un livre de développement personnel, c'est un roman, mais il y a des personnes qui sont revenues me voir en me disant j'ai trouvé des clés en fait pour comprendre comment ça marche et pour comprendre comment ne pas continuer à participer à ça.
Donc, d'un côté, tu décris à travers les personnages justement du monde de l'entreprise une antithèse finalement de ce que c'est qu'un bon manager.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà, sur les Blondines qui est la responsable directe hein, du héros du roman qui effectivement applique à plat sans aucune nuance ses nouveaux savoirs qu'elle a acquis en formation. Donc ça, il y a quelque chose d'un anti-manuel de management.
C'est un bouquin qui est pour comprendre certaines choses qui sont nécessaires dans le management. Et un des trucs qui est dans les grandes organisations très difficile à maintenir, c'est la notion de confiance. Plus on monte, le type qui est tout en haut du poisson qui est en train de pourrir par la tête, il ne peut pas savoir ce que font tous les gens. Donc du coup, il y a une sorte de mythologie dans l'entreprise qui est la mythologie du reporting. Donc tout le monde va mettre dans un petit fichier Excel, le mardi j'ai fait ça, mercredi j'ai fait ça, jeudi j'ai fait ça, va perdre une demi-journée à remplir ce qu'il y a dedans. Le manager va perdre une demi-journée à lire tout ce que les gens font, alors qu'il y a un autre management qui est possible, qui consiste à dire « Je te fais confiance, travaille, s'il y a un problème, viens me voir. »
Donc ce n'est pas une fatalité.
C'est pas une fatalité à partir du moment où à la tête de l'organisation, il y a quelqu'un qui est capable de comprendre que l'humain demande une prise de risque. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire confiance, quitte à rectifier le tir si ça ne se passe pas bien, mais qu'on ne peut pas... moi j'ai une formation de scientifique, hein, j'aimerais bien qu'on puisse se dire avec une méthode parfaite tout le monde va rentrer dans le cadre et ça va fonctionner. Mais en réalité, quand on encadre des équipes, il y a une chose toute simple, c'est que les gens, on a beau les recruter du mieux qu'on peut, à partir du moment où une entreprise devient d'une taille suffisante, c'est forcément plus ou moins représentatif de ce qu'on trouve dans la population. Et dans la population, il n'y a pas 100% de génie, il n'y a pas 100% de gens super efficaces, et les managers n'acceptent pas d'avoir des gens qui sont efficaces sur quelque chose ou pas efficaces sur d'autres. Il faudrait que les gens soient complètement efficaces. Mais en fait, à un moment, il faut savoir se dire, bon, bah lui, il n'est pas bon sur les plannings, mais il est super bon sur comprendre ce que veulent faire les utilisateurs. Elle, Blondine, elle a 2 de QI, mais elle sait faire des tableaux dans lesquels il va y avoir des règles de gestion, je vais faire ça.
Et plaire à son chef.
Voilà, et plaire à son chef.
Et tu as eu des retours de ces gens-là? Tu disais que tu avais eu des retours de gens qui avaient plutôt été victimes de burn-out, mais tout le côté manager que tu décris, est-ce que tu sais s'ils ont lu, par exemple ton livre, et est-ce qu'il y a des retours?
Je ne sais pas, et puis ça reste un roman, c'est-à-dire que...
À clé, un roman à clé quand même.
Blondine est assez... est un personnage assez réaliste, puisque c'est la personne avec qui j'avais à traiter au quotidien. Les autres, en fait, sont des fusions de personnes que j'ai connues, qui amènent, par exemple, on en a un qui est le guerrier taoïste du non-agir en entreprise. Bon, la personne qui m'a un peu servi de modèle bossait beaucoup plus que ça, mais l'idée était de montrer qu'à un moment, si tu ne fais pas les projets... on les redonne à quelqu'un d'autre, et toi, tu ne vas pas faire un burn-out, quoi. Tu ne le fais pas, tu considères que tu fais tes heures, que tu les fais honnêtement, mais il y a des gens qui me disaient, tu sais que les RH ont essayé de voir s'ils pouvaient racheter tous les bouquins. Alors, j'ai pas le temps de dire que si ça avait été vrai, je l'aurais vu, donc ça ne s'est pas fait. Je sais qu'il y a certaines personnes, bizarrement, en fait, les retours les plus véhéments que j'ai eus sont plutôt de gens qui sont restés dans l'entreprise, qui subissent cette pression-là et qui se rangent du côté du manche.
Or, il n'y a pas de haine, finalement, de la part du héros. Il y a parfois une résignation. Et c'est ça qui, peut-être, à un moment donné, m'a questionné. Je faisais l'analogie, des fois, avec un naufragé volontaire. Donc, c'est Alain Bombard du secteur banque-assurance qui, effectivement, est embarqué dans une aventure qu'il n'a pas forcément choisie. Mais finalement, une fois qu'il s'aperçoit qu'il est décalé, ne fuit pas par rapport face au risque et reste jusqu'à effectivement se faire broyer, entamer par la machine.
Ça, c'est le truc le plus incompréhensible quand on vit ça et qu'on arrive à en sortir, c'est rétrospectivement de se dire comment j'ai pu rester si longtemps. C'est-à-dire qu'il y a, c'est difficile. Et en fait, ça vient du fait qu'à un moment, si vous ne réagissez pas assez vite, vous êtes dans un rapport de suggestion qui fait que vous n'avez plus, s'il n'y a pas une étincelle extérieure, alors l'étincelle extérieure là, elle vient du personnage, du fils du personnage principal, mais si vous n'avez pas un déclic qui vient, la personne en face va continuer à vous laminer. Et alors, il y a une citation un peu pompeuse de Thucydide qui dit « Il est dans la nature de l'homme d'oppresser ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent. » Quand vous avez cédé à un moment parce que vous êtes trop fatigué, parce que vous avez bossé jusqu'à 22 heures tous les jours pendant 3 ou 4 mois, vous n'avez plus le ressort, mais même en termes physiques, c'est-à-dire que les vertèbres se tassent, vous n'avez plus de tonus, vous n'avez plus le ressort suffisant pour dire « Attends, tu vas te calmer, tu veux qu'on aille voir mon compteur d'heures, tu vas te détendre tout de suite. » Vous ne le faites pas. L'impulsion doit venir de l'extérieur, c'est-à-dire vraiment de dire aux gens « Ne vous coupez pas du monde extérieur. » Il y a dans le bouquin le fait que les personnages de la vie intime n'aient pas de prénom, et que les personnages de l'entreprise aient un prénom, et que la bascule se fasse quand un petit personnage qui a très peu d'importance dans le livre vient, mais avec son propre prénom. À un moment, quand vous êtes dans une relation de harcèlement, et une relation perverse, plus que de dire que la personne est perverse, mais la relation est perverse, si vous n'avez pas un œil extérieur, vous ne vous en sortez pas.
Et justement, cet œil extérieur, donc c'est le fils qui joue le rôle dans ton livre. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est aussi un beau livre sur la paternité.
C'était quelque chose qui était omniprésent pour une raison simple. Le narrateur arrive à un niveau de pression tel qu'il a besoin d'avoir recours à une toxicomanie. Et il se trouve que l'addiction qu'il développe, c'est une addiction à la pornographie. Et donc là, il y a une charge morale telle que quand j'écrivais le bouquin et en sachant qu'il y aurait confusion entre le narrateur et l'écrivain... Le fiston, s'il dit ça, le narrateur a cette obsession de continuer à assurer en tant que père.
Avec l'amour aussi.
L'amour pour le fils ou pour son amoureuse?
Les deux.
Parce que la grosse différence entre les deux, c'est que... alors d'ailleurs, quand je l'ai fait lire à mon amoureuse d'aujourd'hui, elle m'a dit « Ouais, c'est bien un bouquin de mec, ça ».
Quoi un bouquin de mec?
Eh ben, en gros, on parle beaucoup des problèmes et des relations entre les gars et du boulot, etc. Et puis, la copine, elle est réduite à une voix à laquelle ils téléphonent parce qu'ils n'habitent pas ensemble. Elle est lointaine. Il y a une petite scène de tendresse dans tout le bouquin. Alors qu'en réalité, la place de l'amour dans ce bouquin, il y a une sorte de parallèle entre le travail et ce qu'il devrait pouvoir être. Et le management pourri, le reporting, le mode projet qui empêche de travailler réellement. Et dans l'amour, il y a la même chose, c'est-à-dire il y a cet amour qu'il n'arrive pas à avoir au quotidien parce que la personne est loin et que lui-même est obligé de faire croire qu'il va bien. Et puis derrière, ce développement sur la pornographie où ce sont aussi des cas, c'est-à-dire les sites internet sont présentés par blonde, brune, rousse, fellation. Bon, je m'arrête là. Du coup, il y a cette insatisfaction d'avoir quelque chose de vide et de répétitif, alors qu'on devrait avoir la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, je le montre à la fin du bouquin, quand le type, à un moment, se dit « Bon, moi j'arrête, je ne me mets plus la pression. » Et contre toute attente, on se dit qu'il va se mettre à rien faire, comme le gars de la guérilla taoïste. Et en fait, il se remet à bosser. Et pareil pour la métaphore sur la pornographie, la majeure partie des gens qui vont tomber dans ce que je considère être un piège, ça vient aussi d'une insatisfaction sentimentale beaucoup plus profonde, quoi. Ça fait un peu naïf, mais je pense que quand on a des gens qu'on aime et qui vous aiment autour, et qui vous le disent et que vous ressentez, quand vous sentez en connexion avec des gens, les abuseurs ont moins pris sur vous, quoi. ça semble un peu idiot parce que c'est quand même pas facile à définir ce que c'est que l'amour ou quoi, mais clairement, ce qui sauve le personnage, là, c'est effectivement, le narrateur est sauvé par l'amour de cette personne, par l'amour de son fils, par l'amour des copains qui finissent par réaliser qu'en fait, ils ne l'ont pas vu depuis un petit moment. C'est ce qui, sans doute ce qui me différencie de Houellebecq. Je ne me compare pas à ce Michel-là, qui est un Michel un petit peu plus talentueux, mais ce qui fait la grosse différence entre l'ironie qu'on peut ressentir chez Houellebecq, qui a un côté désabusé, vous m'avez suffisamment fait souffrir, je ne vous dois rien, je suis cynique, et celle que j'ai essayé de mettre dans ce livre-là, c'est oui, le monde marche n'importe comment, les gens font n'importe quoi, il faut arrêter de donner des places à des gens comme ça, mais les gens ne sont pas fondamentalement méchants, quoi.
Je voulais revenir, après cette parenthèse sentimentale, sur le, un petit bout du monde de l'entreprise que tu décris, en m'interrogeant finalement sur le fait que le personnage semble être dans le vrai et critiquer quelque chose qui est, je dirais, perverti, factice, enfin, mais qui imprime sur lui une marque forte. Mais certains détails du monde de l'entreprise qu'il décrit me semblaient parfois révéler plus, à la limite, un penchant paranoïaque. Quand il décrit l'essuie-main que l'entreprise met en place dans les sanitaires, l'entreprise a conçu que l'essuie-main se déchire afin qu'on ne le consomme pas et qu'on fasse des économies d'essuie-main. Alors je suis tombé des nues, je dis mais où est-ce qu'il est allé chercher ça ? Est-ce que tu as lu une étude là-dessus ? Ou est-ce que c'est ton personnage qui, à force de torture de son entreprise, finit par diaboliser finalement même les choses les plus anodines, les plus innocentes, comme un essuie-main ?
Je m'insurge, je m'inscris en faux et j'exige que nous allions rechercher la page, parce que je pense que ce qu'il dit surtout, c'est qu'il y a eu un marché public pour que ce soit moins cher et que le résultat, c'est que les feuilles se déchirent alors qu'elles ne se déchiraient pas sur le fournisseur précédent. C'est-à-dire qu'effectivement, la boîte va pouvoir passer un marché pour avoir des essuies moins chers alors qu'ils vont pouvoir dépenser des millions de coms pour mettre des autocollants avec une abeille sur le miroir des toilettes, mais en soi c'est pas très grave. Là il y a un débat derrière beaucoup plus philosophique qui est est-ce que la volonté de créer du lien par des actions pilotées par les RH dans l'entreprise, ça permet aux gens d'être plus heureux, ou est-ce que c'est du bourrage de crâne et de la propagande? Moi j'ai pas la réponse à ça. Et aussi parce qu'en tant qu'écrivain, moi j'ai un rapport bijectif. Les mots, la réalité. C'est un handicap énorme, et je pense qu'il y a pas mal d'écrivains qui ont ça, qui est qu'il n'y a pas de... Il y a un rapport tellement amoureux avec le langage que les écrivains dont je me sens proche sont tout le temps des gens qui construisent le monde dans lequel ils vivent avec les mots qu'ils utilisent. Montaigne dit « Si je n'ai pas écrit ce que j'ai vécu, je ne sais pas ce que j'ai vécu. » Proust dit « La vraie vie, c'est la littérature ». Et donc, je pense qu'il y a une grande partie des gens en entreprise qui peuvent prendre le recul nécessaire sur ce bourrage de crâne-là. Il y a aussi une grande partie qui ne prend pas le recul nécessaire avec ce bourrage de crâne-là, mais qui sait qu'en suivant la vague, ils vont être mieux notés à la fin de l'année. Et puis, il y a des gens qui, malheureusement, ont beau savoir que c'est du vent, se sentent... obligé de résister à ça parce que ça leur abîme le cerveau. J'en fais un peu partie, quoi.
Petite incursion, retour sur le style. J'évoquais tout à l'heure le plaisir de lecture qui était ton roman. Tu as pris le parti de le découper en courts chapitres, chapitres auxquels tu donnes un titre. Quel effet tu as cherché à provoquer dans ce découpage et je dirais dans... le titre que tu as porté à tes chapitres, c'est...
Est-ce que je peux rentrer dans de la tuyauterie? Vraiment dans du...
Ça dépend si c'est la tienne.
En fait, j'ai commencé par écrire un bouquin qui était écrit chronologiquement en m'appuyant sur l'éphéméride corporate dans lequel chaque jour il vous donne une super phrase, tous ensemble dans la coopération, des choses comme ça. Et j'ai écrit un roman chronologique là-dessus, et c'était répétitif, c'était long. Ça fonctionnait pas. Et le passage vraiment du récit au roman a demandé pour moi de de casser les personnages, c'est-à-dire que les personnages qu'il y a dans le bouquin ne sont plus les gens que j'ai rencontrés. Le déroulement chronologique n'est pas exactement celui que moi j'ai pu vivre, parce que dans la réalité, la vie en entreprise, c'est 15 fois plus répétitif. C'est-à-dire que les choses viennent, disparaissent, reviennent, redisparaissent, cet éternel retour du même qui vrille complètement le cerveau. Donc, j'ai fait tout un travail de casser complètement la structure du bouquin, de la séparer en éléments unitaires, et ensuite de faire un peu comme une sorte de matrice avec des personnages. En horizontal, les personnages, en vertical, les thématiques, et puis dans les cases, toutes les petites anecdotes qui avaient été remises. Et ensuite, j'ai repris ces anecdotes-là, je les ai reconstruites et sous forme de chapitres.
Or, ton style est beaucoup moins systématique que la description matricielle que tu viens de nous présenter. Mais finalement, c'est plus des épisodes qui constituent que sur les bases desquelles tu reconstitues une chronologie, alors que ton style aurait pu nous emmener sur un tempo plus espacé, plus.
Alors la réponse, elle est hyper pragmatique. En fait, c'est le premier roman que je publie. Et quand on imprime son roman, on imprime pour que l'éditeur puisse le lire facilement. Alors moi, mon bouquin, il est arrivé par la poste chez l'éditeur. Aujourd'hui, c'est assez rare qu'on arrive à faire publier un truc qui arrive chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc j'ai envoyé ça par la poste. Le gars, il ne te connaît pas. Tu veux que ce soit facile à lire. Donc tu mets un interligne 1,5, tu vois. Tu mets une police assez grosse. Tu n'écris que sur les pages de droite. Donc quand tu imprimes ton premier jet, tu regardes le truc et tu as un pavé devant toi. Mais un truc, tu te dis, mais jamais il va lire ça. Le mec, il y a 250 pages... Ça pèse 3,5 kg, il va jamais lire ça. J'ai enlevé un tiers de signe, persuadé que ça allait être un truc, un véritable pavé. Et donc en fait, j'aurais préféré m'autoriser plus. Il y a quelques passages, notamment il y a des passages sur la description de la ville où ça se passe. Il y a un petit passage, une petite pastille sur le type qui se balade en skate à l'intérieur de cette ville-là. Il y a ces petites indications qui disent voilà, la scène avec l'amoureuse où ils vont cueillir des fraises. J'avais envie de faire ça, mais j'ai pas osé. Donc là très sincèrement, je pense qu'il y a l'effet d'être un primo-romancier, de se dire je ne sais pas comment les gens vont accueillir mon bouquin, je ne sais pas s'ils accepteront des tunnels dans lesquels je fais pas avancer la narration et dans lesquels je laisse exprimer une sensibilité de style plus importante. D'une certaine façon, par un effet de modestie, j'ai préféré faire des choses plus courtes en me disant, voilà, j'ai moi-même cette frustration de ne pas avoir forcément osé aller jusqu'au bout de ça.
Ça pour le deuxième roman, du coup. Bon.
Toujours dans le style, le propos est percutant et le style ne l'est pas, dans le sens où le style, effectivement, on est dans quelque chose de... qui nous emmène, qui nous prend par la main, mais on aurait pu imaginer avec le thème que tu abordes, quelques coups de poing dans la gueule.
Ouais, et ça aurait été publié au Diable Vauvert et pas au Castor Astral. Ça, pour le coup, c'est pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais pas un pamphlet, je voulais pas des choses tranchées, parce que je crois... Alors, d'une part, parce que je ne crois pas que les choses soient comme ça dans la réalité. Je pense que c'est beaucoup plus difficile. Je pense que, par exemple, le personnage de Blondine, qui est quand même particulièrement odieuse, avec un autre chef au-dessus... aurait pu être quelqu'un de sympathique. C'est-à-dire, je pense que les choses ne sont pas blanc ou noir et extrêmement tranchées. Et l'autre chose, c'est qu'en termes de personnalité, j'ai pas envie d'acheter le lecteur par un côté un peu démago. Je vais attaquer l'icône totale, là. Je pense que l'interview est en train de prendre un virage anti-promotionnel total. Mais un bouquin comme Indignez-vous, je pense qu'il y a une différence entre le message qui est « responsabilisez-vous et soyez indignés pour ça » et puis le ressenti qu'il y a pu y avoir qui est « soyez révoltés et puis vous avez raison d'être en colère ». J'avais pas envie de dire d'aller acheter le lecteur en le faisant jubiler sur le côté « ah bah oui, tous pourris, il a bien raison », etc. C'est vraiment quelque chose que j'avais pas envie de faire. C'est-à-dire, je voulais un truc qui soit sur un sujet un peu hardcore et il y a quand même des passages un peu rentre dedans, je voulais qu'il y ait une forme de tendresse dans le bouquin. C'était important pour moi qu'il y ait cette tendresse-là où, oui, les gens se conduisent pas bien, oui, mais en fait, ils font ce qu'ils peuvent, quoi.
D'où l'ironie plus que le cynisme, voilà, comme tu disais au début.
Exactement.
Donc Michel Goussu, merci beaucoup.
Merci.
Merci pour ce moment de lecture. Merci beaucoup pour cette interview. Le poisson pourri par la tête, Burnout, un roman paru au Castor Astral.
C'était l'interview des poches sous les yeux. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousles yeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.